Bible, dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 4. Et nous lirons ensemble à partir du verset 5, où il est dit, donc c'est, on parle de Jésus ici, hein. Il arriva donc dans une ville de Samarie nommée Sichar, près des champs que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la sixième heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une samaritaine ?» Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire. » C'est toi qui lui aurais demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit-elle, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux ?» Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. » Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit-il, appelle ton mari et reviens ici. La femme répondit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as bien fait de dire « je n'ai pas de mari », car tu as eu cinq maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie vient, celui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Et nous continuons ensuite au verset 39. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Aussi, quand les Samaritains vinrent à lui, ils le prièrent de rester auprès d'eux, et il resta là deux jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole. Il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de tes dires que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes. » Et nous savons que c'est vraiment lui le sauveur du monde. Et nous lisons un deuxième texte dans 1 Corinthiens 6 au verset 20. Car vous avez été rachetés à grand prix. Ça c'est le salut, c'est l'évangile, c'est l'œuvre de grâce. Et voici la suite. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. C'est une grande motivation à glorifier notre Seigneur de gloire. La parole de Dieu donne la vie. Saviez ça? La parole de Dieu donne la vie. C'est Christ qui donne la vie, mais par sa parole. Et la prédication, c'est la proclamation de la parole de Dieu. Donc en fait, moi, ça me fait plaisir de proclamer la parole de Dieu, puisqu'elle donne la vie. Et c'est une joie de pouvoir le faire aujourd'hui encore. Et on est tous conscients qu'un corps, sans tête, il ne peut pas vivre. On est d'accord. L'Église sans Christ ne peut pas exister. La Bible sans illumination de l'esprit ne peut pas être appliquée. C'est pour ça que nous comptons sur l'œuvre de l'esprit encore cet après-midi, pour qu'on puisse l'appliquer dans nos vies. Alors pour les 10 ans de la constitution de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel cette année, nous suivons ensemble une petite série intitulée « L'Église de Dieu, l'Évangile rendu visible ». Alors peut-être vous connaissez les petits dessins où il est écrit « L'amour, c'est ». Et puis après, il y a quelque chose, quoi. L'amour, c'est, je ne sais pas, marcher main dans la main. L'amour, c'est lui laisser la place dans le train quand il est bondé. Enfin, il y a plein de Vous connaissez ? Vous avez déjà entendu ça, hein ? Eh bien, la dernière fois, lors de la dernière introduction de cette série, eh bien, je vous ai donné quelques « l'Église sait ». Et je vous en donnais quelques autres aujourd'hui. « L'Église sait », trois petits points. Eh bien, l'Église, c'est l'objet de l'amour de Dieu qui envoie son Fils à la croix pour la racheter. Ça, c'est l'Église. L'Église, c'est le corps de Christ, sa tête, à qui elle est organiquement liée et de qui il prend soin. L'Église, c'est le bien que Dieu s'est acquis par son propre sang. L'Église, c'est l'épouse du Christ, qui partage tout avec son époux et bénéficie totalement de tous ses biens. L'Église, c'est la construction de Dieu avec des pierres vivantes qu'il choisit selon le plan qu'il a établi. L'Église, c'est l'ensemble des baptisés appartenant à Dieu. L'Église, c'est l'ensemble des baptisés appartenant à Dieu ou à Christ. L'Église, c'est un édifice dont la pierre de l'angle est Jésus-Christ. L'Église, c'est l'endroit où tout ce que Christ a commandé est enseigné. L'Église, c'est la communauté construite par Jésus-Christ qui a toute puissance et constamment présent selon le plan qu'il nous a donné, évangélisé, baptisé et enseigné. L'Église, c'est un troupeau dont les membres sont clairement identifiés. L'Église, c'est une organisation ordonnée, établie par Dieu, avec des anciens et des diacres. L'Église, c'est une institution divine indestructible. L'Église, c'est une institution divine indestructible. Jésus est déterminé à construire son Église, qu'il aime par-dessus toute chose. C'est pourquoi il est venu du ciel, sur la terre, jusqu'à la croix. C'est parce qu'il veut construire son Église. Et il prend 3 ans de sa vie pour enseigner les fondements de son Église. Et le Saint-Esprit va même rappeler toutes ses instructions à ses apôtres et à ses disciples, qui vont donc le vivre dans le livre des Actes. On voit que les apôtres annoncent l'Évangile, baptisent et enseignent donc dans l'Église. Celui qui est disciple de Jésus va se faire baptiser pour être ajouté à l'Église et recevoir l'enseignement de l'Église. En fait, toutes les affirmations que je viens vous donner résument, en fait, les 2 premières prédications qu'on a vues ensemble sur l'Église. Les 2 premières prédications qui étaient intitulées « L'Église que Jésus aime ». On a vu qu'il s'était donné pour elle, qu'il est lié à elle. Et deuxièmement, on avait vu que l'Église est construite par Jésus-Christ, l'Église que Jésus construit. Vous vous souvenez souvent de ce texte « Je bâtirai mon Église ». Texte donc dans Matthieu 16. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'Église que Jésus, enfin l'Église de Jésus, l'adore. L'Église de Jésus adore Jésus. Pour commencer, on va dans un premier point nous interroger sur le but de l'Église. Quel est le but de l'Église ? Pourquoi Dieu a-t-il bâti une Église organisée ? Pourquoi l'Église existe-t-elle ? Que sommes-nous ? Ici, par exemple, l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, appelée à vivre en tant qu'Église. Je pense qu'on a une question à prendre juste un petit peu avant, qui va nous aider. C'est, quel est le but de l'existence de l'homme ? C'est intéressant, c'est une question fondamentale. Pourquoi est-ce que Dieu nous a créés ? Eh bien, c'est pour le glorifier et trouver notre plaisir en lui. C'est pour le glorifier et trouver notre plaisir en lui. Et c'est le but, la raison qui nous a fait nous lever ce matin. C'est le but et la raison qui a fait que nous sommes venus ici, cet après-midi. Et ce qui est vrai pour l'individu, pour chaque personne, est vrai aussi pour l'ensemble, pour la communauté. Or, le but ultime de chaque église locale est de glorifier Dieu de toutes ses forces, avec tous les dons qui lui sont donnés, toute son intelligence, toutes ses pensées, tous ses sentiments. Donc, le but ultime de l'église locale est de glorifier Dieu de toutes ses forces, avec tous les dons qui lui sont donnés, toutes son intelligence, toute sa pensée et tous ses sentiments. Elle glorifie Dieu par l'adoration, par la communion et l'évangélisation. C'est les trois dimensions de la mission de l'Église. Hein. Dieu, dedans et dehors. Là, on avait vu ça ensemble dans l'artisan de paix quand on a parlé de la paix 3D. Eh bien, dans l'Église, il y a aussi la mission 3D. La mission 3D, c'est justement cette adoration envers Dieu, la communion, donc dedans les uns avec les autres, hein, et puis ensuite l'évangélisation ou la proclamation de la parole au dehors. C'est pourquoi dans la constitution de l'Église, qui a été constituée maintenant il y a 10 ans, dans le document de la constitution, vous trouverez à l'article 2 des statuts cette affirmation concernant l'Église. Son rôle est d'apporter à Dieu l'adoration qui lui est due, de travailler au perfectionnement de ses membres et de proclamer fidèlement tout le conseil de Dieu. Voilà, c'est dans la constitution. Bon, on la lit peut-être pas tous les jours, c'est pas grave, hein, mais c'est un élément fondateur de l'Église aussi. Et nous parlerons aujourd'hui particulièrement de la première dimension, du premier dé, qui est celle de l'adoration de Dieu, de l'adoration dans l'Église. Alors le but de chaque Église locale n'est rien de moins que de glorifier Dieu de manière à ce que Jésus soit adoré et notre Dieu trinitaire adoré. Et moi j'aime ce texte dans Éphésiens 3, 21 qui souligne en fait, qui dit ceci, c'est l'apôtre Paul, il est en train d'écrire aux Éphésiens et c'est comme un cri qui vient de son cœur qui dit « À lui la gloire dans l'Église !» À lui la gloire dans l'Église. Est-ce que c'est ce qu'on désire vivre ensemble? Alors quelle est la première, la principale raison de venir à l'Église? C'est d'adorer Dieu. C'est la principale raison de venir à l'Église, c'est adorer Dieu. C'est pas évangéliser, retrouver ses frères et sœurs, obéir à Dieu, même si toutes ces raisons sont bonnes et on leur place dans l'Église. Mais ce ne doit pas être notre moteur principal pour venir à l'Église. Nous vivons ce culte pour adorer Dieu. Donc chacun est appelé à adorer Dieu personnellement, c'est vrai, et nous sommes également, clairement, dans la Bible enseignée, à adorer ensemble, en communauté, en Église. Est-ce qu'on a saisi ça, hein? Souvent, on saisit cette notion, il faut adorer Dieu. Puis on pense, ok, j'adore Dieu. Mais la Bible nous enseigne, nous devons adorer Dieu. L'Église, ensemble. Et ça, c'est un élément qui est vraiment important. C'est vrai que vous êtes appelé à adorer Dieu dans votre chambre, seul, dans le secret, où la personne d'autre que le Père ne voit. C'est bien, c'est important de le faire. C'est aussi important de le faire dans le cadre du foyer, dans le cadre de la famille, dans le cadre de... même dans l'entreprise où on est, d'adorer Dieu par la manière dont nous le vivons, notre foi, notre travail, à l'école aussi. Hein. On peut adorer Dieu en écoutant et en obéissant, et en cherchant à comprendre tout ce qu'il nous enseignait, parce que ça va nous aider à connaître Dieu encore plus. Mais aujourd'hui, nous allons parler donc d'un appel particulier de l'Église à adorer Dieu ensemble en tant que communauté. Les psaumes, on en parle très souvent. Le psaume 34, verset 4, par exemple, nous encourage à exalter ensemble le nom de l'Éternel. Bien des psaumes appellent à annoncer, à proclamer Dieu ensemble, à l'adorer. Romains 15, verset 6, mais regardons ensemble. Romains 15, verset 6, on peut même lire le verset 5, en fait. Que le Dieu de la patience et de la consolation vous donne d'avoir une même pensée les uns à l'égard des autres selon le Christ Jésus. Afin que d'un commun accord, d'une seule voix, vous glorifiez Dieu, et le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Ensemble, l'adoration publique et communautaire, c'est quelque chose que Dieu nous demande. Et il l'a rendu possible, vous savez comment? En nous donnant le sabbat. Le sabbat, en fait, une des raisons du sabbat, c'est que nous puissions adorer Dieu ensemble. Donc il y a plusieurs raisons, plusieurs buts au sabbat, mais il y a deux éléments qui reviennent tout le temps quand on parle du sabbat dans la Bible. Un, c'est le repos, et deux, c'est l'adoration communautaire. Les deux éléments, c'est des éléments fondamentaux du jour du sabbat. Et dans le Nouveau Testament, le jour du Seigneur est le jour d'adoration où les élus se rassemblent. On voit plusieurs textes, le premier jour de la semaine, ils se retrouvaient pour lire la parole, pour adorer Dieu. Il y a bien des enseignements dans l'Écriture concernant l'adoration. Par exemple, Apocalypse 4, où ça fait une prédication déjà il y a quelques temps, hein, dans l'Apocalypse, où là, on a pu étudier qu'est-ce qu'est l'adoration. Mais aujourd'hui, j'ai choisi de nous arrêter un instant sur Jean 4, qui nous parle justement aussi de l'adoration, qui va nous permettre de parler du lieu d'adoration et qu'est-ce que cela signifie pour nous, ainsi que des quelques traits caractéristiques de la vraie adoration. Et nous terminerons par contempler avec joie les fruits d'une adoration authentique. Or, dans Jean 4, on peut revenir dans Jean, si jamais, dans vos Bibles, hein, puisqu'on va revenir dans ce texte quelques fois, donc Jean 4. Dans Jean 4, il est intéressant de voir que Jésus n'a pas choisi d'enseigner, en fait, à une grande foule, ou même à ses disciples. Il a choisi d'enseigner à une pécheresse. Jésus, ici, dans son contact, on avait vu ensemble, on avait parlé des sept paroles de Jésus quand on avait parlé de Jean 4 ensemble. Hein, donc, je ne vais pas reprendre tous ces éléments-là. Mais ici, il propose de l'eau, une eau particulière à cette femme. De l'eau de la vie, l'eau que le salut apporte. Mais en fait, elle n'arrive pas à sortir de l'idée qu'elle veut lui donner de l'eau qu'elle peut boire, qui lui permettra de plus venir à ce puits-là. Et Jésus va l'aider à comprendre qu'il parle en fait de l'eau spirituelle lorsqu'il lui demande d'aller appeler son mari. En fait, si Jésus demande à cette femme d'aller appeler son mari, c'était pour l'aider à comprendre qu'il ne parlait pas de l'eau physique. Et qu'est-ce qu'elle répond ? Elle dit, mais j'ai pas de mari. Et là, Jésus dit, mais c'est vrai, tu as raison. Tu n'as pas de mari parce que tu as eu cinq maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En fait, pendant des années, elle a vécu pratiquement ce que le prophète Jérémie avait annoncé. Jérémie avait annoncé dans Jérémie 2, verset 13, « Car mon peuple a doublement mal agi. Ils m'ont abandonné, moi la source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Et là, en fait, la Samaritaine, quand Jésus lui pose ses questions, elle lui dit en fait ce qu'elle a vécu, elle se rend compte qu'elle a soif et qu'elle se détache de la pensée de l'eau physique pour commencer à saisir que Jésus n'est pas un homme comme les autres. S'il connaît ce qu'elle a vécu avec ces hommes, il ne l'avait jamais rencontré, hein, jamais vu. Mais si elle sait ça, elle sait peut-être tout le reste, connaît toute sa vie. C'est un homme qui reçoit sûrement des révélations de Dieu. Elle dit, mais c'est un prophète. Un prophète qui reçoit des révélations de Dieu. Donc elle se dit, ben je vais lui demander quelque chose qui me paraît important. C'est mais où adorer Dieu alors? Est-ce que c'est au mont Garizim, où les Samaritains l'adoraient, ou bien c'était à Jérusalem? Alors je dis, mais attends, il est en train de changer de sujet là. Il a dit, bah, cherchez ton mari et tout, puis elle va dire où c'est qu'on adore Dieu. Et en fait, Jésus nous montre en fait qu'elle n'a pas du tout changé de sujet. Il ne la reprend pas. Il est en train de nous montrer que son problème était en réalité un problème d'adoration. Les hommes qu'elle a eus étaient en fait ses idoles. Elle prenait la place de Dieu dans son cœur. Elle avait soif, mais elle cherchait des eaux dans des citernes crevassées. Et elle aurait pu continuer après 5, 6, 7, 8. Jamais elle n'aurait pu avoir sa soif étanchée. Elle ne cherchait pas au bon endroit. Mais en buvant ce que Jésus lui propose, elle n'aura plus jamais soif. Plus jamais. Alors parlons justement de ce lieu d'adoration, puisque Jésus en parle avec la Samaritaine. Donc le lieu d'adoration. La Samaritaine avait demandé, mais est-ce que c'est à Garizim ou à Jérusalem? Mais en fait, son problème, c'est qu'elle n'adorait ni à Jérusalem, ni à Garizim. En fait, elle s'arrête sur une forme extérieure, mais sans parler vraiment de ce qui se passe à l'intérieur. Elle pense que Dieu regarde si nous sommes au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, pour que ce soit une adoration authentique. Il faut être à bonne heure, au bon endroit, avec les bonnes personnes, et ça, c'est la vraie adoration. Et combien de personnes, en fait, pensent comme elle? Je suis allé dans cette église, j'ai chanté, j'ai prié, j'ai écouté la prédication, j'ai soutenu financièrement, j'ai été présent aux rencontres. Que manque-t-il, en fait? Eh bien, il manque une rencontre avec le Dieu vivant. Tous ceux qui pensent avoir fait leur devoir religieux en allant à l'église n'ont pas rencontré Dieu comme cette femme. C'est pourquoi Jésus lui dit, ce n'est ni à Garizim, ni à Jérusalem. Et dans la Nouvelle Alliance, le lieu change à cause de l'œuvre de Christ. C'est vrai que dans l'Ancien Testament, le lieu était vraiment important. Parce que Dieu avait dit l'endroit où il devait adorer. Il n'y avait pas un autre endroit. Si on adorait un autre endroit, en fait, on était en train de désobéir à Dieu. L'endroit était où Dieu manifestait sa présence, le tabernacle ou le temple. Et trois fois par année, tous les hommes d'Israël devaient se rendre au lieu choisi par Dieu. Imaginez maintenant, trois fois par année, tout le monde doit aller à Jérusalem. Même avant, quand il n'y avait pas d'avion, hein, il aurait fallu... Non, je veux dire, Jésus est venu et il a accompli totalement tout ce que Dieu avait annoncé dans l'Ancien Testament. Et il construit son église maintenant, qui n'est plus seulement dans un lieu donné géographiquement, mais sur toute la terre. Sur toute la terre. Et en fait, le lieu que Dieu veut, parce qu'il y a un lieu où Dieu veut que nous adorions, c'est le lieu où il y a sa présence, en fait. L'adoration de Dieu est liée à la présence de Dieu. Et depuis la Pentecôte, cette présence de Dieu est en nous par le Saint-Esprit. D'accord ? Donc l'adoration de Dieu est liée à la présence de Dieu. Et depuis la Pentecôte, cette présence de Dieu est en nous par le Saint-Esprit. Nous sommes le temple de Dieu et chacun est une pierre de cet édifice, en fait. Et vous savez que le Saint-Esprit habite en vous si vous êtes chrétien. Mais c'est plus seulement individuel, c'est ensemble, en Église, que nous formons le temple. Comme il dit, vous êtes des pierres vivantes, une seule pierre n'est pas un temple. Il en faut plusieurs, ensemble, pour former un édifice. Et là, on va regarder un texte qui, je trouve, est vraiment intéressant dans ce sujet-là, c'est 1 Corinthiens 3, 16-17. Et là, bien, on va être attentif au pluriel utilisé. Il n'est pas dit singulier, il n'est pas dit « c'est seulement toi ». Il va parler du pluriel pour dire en fait que c'est à une communauté qu'il s'adresse, une église. Hein. Et il dit, verset 16, donc 1 Corinthiens 3, 16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, c'est ce que vous êtes. » Donc c'est l'église ensemble qui est le temple de Dieu. Et en Corinthiens, 2 Corinthiens 6, 16 est encore plus clair, où Paul dit « Nous sommes le temple du Dieu vivant. » Nous sommes le temple du Dieu vivant. Ça signifie qu'à chaque endroit où nous nous rassemblons, c'est le lieu d'adoration. C'est l'endroit d'adoration. Hein, vous connaissez sûrement ce texte de Matthieu 18, 20, où Jésus, qui est Dieu, nous dit que là où deux ou trois sont assemblés en son nom, je suis au milieu d'eux. Est-ce qu'on se rend compte de ça ? Je suis, Dieu est là maintenant, ici. Nous sommes ici dans la maison de paroisse, on n'est pas dans une église, un bâtiment église, hein. Ce n'est pas un lieu particulièrement sanctifié, mais à chaque fois que nous nous rassemblons pour adorer Dieu, ce lieu devient un lieu saint. Vous êtes maintenant ici, dans un lieu saint, parce que Dieu est présent. De la même manière que lorsque Moïse, qui était devant le buisson ardent, ou bien Josué devant l'ange de l'Éternel, devant le buisson, qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse ? C'est un lieu saint. Pourquoi est-ce que Dieu a dit ça à Moïse ? Parce que ce lieu particulier dans le désert était saint ? Non. C'est parce que Dieu était présent. C'est pour ça que ce lieu était saint. C'est la présence particulière de Dieu qui rend un lieu saint. Dans plusieurs églises, particulièrement l'église catholique romaine, il y a des croyances que Dieu se manifeste particulièrement en certains lieux. C'est pourquoi les églises sont ouvertes afin que les croyants puissent y aller et y prier. Alors, il n'y a rien de faux à avoir des lieux pour prier, on est d'accord. Mais il est faux de penser qu'il y a quelque chose de particulier lié à l'endroit et de penser que Dieu reçoit mieux l'adoration dans ce lieu qu'ailleurs. Comme s'il fallait un sanctuaire physique pour l'action de Dieu, un lieu où se trouve l'autel, l'hostie, hein, la présence physique de Christ, et que c'est un lieu particulièrement saint pour prier Dieu. C'est la présence de l'Église où Jésus, où Dieu est présent, qui fait qu'un lieu soit saint. Alors, c'est pour ça en fait que du temps de la Réforme, les réformateurs, quand le culte était terminé, ils fermaient l'Église. Pour que les gens comprennent que ce n'était pas un lieu plus saint où c'est seulement là qu'on peut adorer. Et chacun était appelé à adorer Dieu ensuite, là où il était, à la maison. Et de se retrouver de nouveau ensemble pour l'adorer, donc la rencontre suivante. Et de comprendre aussi que c'est le fait que l'Église était rassemblée et que Dieu manifestait sa présence, que le lieu était saint. Donc comprenons clairement que quand l'Église se rassemble, il y a une présence particulière de Christ, ça c'est vrai. Il y a une présence particulière de Christ, de Dieu, qui est là, maintenant. Et en fait, ça change tout. Quand on commence à être conscient de la présence particulière de Dieu, maintenant, ici, eh bien, ça va changer notre manière de prier, ça va changer notre manière de prêcher, de chanter, d'écouter, de donner, enfin. Quand on est conscient que Dieu est présent d'une manière toute particulière. Voilà pour le lieu. J'espère que vous avez pu comprendre que le lieu n'est pas lié à un bâtiment, mais il est lié au rassemblement de l'Église de Jésus-Christ. Parlons maintenant de la vraie adoration ensemble. La vraie adoration doit être centrée sur Dieu. Si c'est un lieu où Dieu se manifeste particulièrement, la vraie adoration doit être centrée sur Dieu. Nous voulons donc nous battre de tout notre cœur et de toutes nos forces pour ne rien mettre de ce que l'homme désire, mais uniquement de ce que Dieu désire dans notre adoration pour nous. C'est d'ailleurs pour ça que vous n'avez pas vu de questionnaire. On vous donne un questionnaire, on dit « Qu'est-ce que vous aimeriez bien vivre dans le culte le dimanche ? Qu'est-ce que vous avez comme désir particulier ?» Pourquoi ? Parce qu'on ne cherche pas à vivre selon notre désir, on cherche à vivre le culte selon le désir de Dieu. C'est lui qu'on adore, c'est lui qui nous donne la manière de l'adorer. Et ce n'est pas nous qui le décidons. Nous sommes l'épouse de Christ. Et comment est-ce que l'épouse doit se comporter en sa présence ? c'est vrai, on ne le voit pas. On ne le voit pas de nos yeux. Moi, je ne le vois pas. Vous ne le voyez pas non plus. Mais il est présent ici. Et il a dit à Thomas, d'ailleurs, « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Et nous croyons qu'il est présent. C'est pourquoi nous désirons vivre une adoration centrée sur Dieu. Et si l'adoration communautaire, le jour du Seigneur, est faite pour Dieu parce qu'il est là, ben c'est une priorité pour nous. C'est quelque chose qui est important. Il est là. Donc je veux l'adorer avec mes frères et sœurs. Voilà pourquoi il est dit dans Hébreux 10, 25 de ne pas négliger nos assemblées. Donc, une vraie adoration est une adoration centrée sur Dieu. On essaie d'enlever tout ce qui est humain, tout ce qui vient de nous-mêmes, de nos désirs, parce que nos désirs sont mauvais, et qu'on veut ce que Dieu veut pour l'adorer. Ensuite, la vraie adoration est révérencieuse. Waouh ! C'est pas un mot qu'on a l'habitude d'utiliser, révérencieuse. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Révérencieuse, c'est avec un grand respect mêlé de retenue. Et même parfois de crainte. Un grand respect mêlé de retenue. C'est-à-dire, je respecte, puis je ne fais pas ce que moi je veux, je fais ce que l'autre veut. C'est donc une adoration révérencieuse. Alors, rappelez-vous, Moïse devant le buisson ardent, Dieu lui a dit que le lieu était saint. Souvenez-vous, le lieu est saint. Eh bien, de même ici maintenant, qu'est-ce qu'il a dû faire Moïse dans le lieu saint ? Il a dû enlever ses souliers. Bon, est-ce qu'on a enlevé nos souliers ? Non. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à l'époque, enlever les souliers signifiait ou manifestait un signe de respect envers une personne et particulièrement envers son maître. Donc on enlevait les souliers par signe de respect envers son maître. Et donc, d'avoir une attitude de respect, de révérence. Eh bien, pour nous, quand on se retrouve ensemble en église ou qu'on se retrouve devant Dieu en prière, nous allons aussi enlever nos souliers, mais pas les souliers physiques, parce que c'est actuellement ici, si on enlève nos souliers, ce n'est pas une marque de respect, peut-être même l'inverse parfois. Mais on va enlever quelque part nos souliers spirituels, dans le sens tout ce qui nous retient à la terre, tout ce qui nous retient ici-bas, tous nos propres désirs. Ça, on les laisse, on les enlève. On veut venir devant Dieu tel que lui le désire. Malheureusement, aujourd'hui, de nos jours, on oublie cette notion d'être révérencieux envers Dieu quand on l'adore. Et ça se manifeste par différentes choses dans l'Église. Et justement, c'est là qu'on doit se poser la question, mais quand je viens adorer Dieu, que je le fais d'une manière révérencieuse, eh bien tout ce qui est irrévérencieux, vous allez dire, ça c'est l'inverse, tout ce qui n'est pas de respect, eh bien on va l'écarter. Les habits que nous portons, nous les venons qu'ils soient révérencieux pour Dieu. Les mots que nous utilisons, nous voulons qu'ils soient révérencieux pour Dieu. La musique que nous jouons, nous voulons qu'elle soit révérencieuse pour Dieu. Nous ne voulons que cela soit différent du monde. Ben, si ce n'est pas différent du monde, c'est étonnant. Parce que le monde est en révolte contre Dieu. Il n'a aucune révérence pour Dieu. Soyez donc reconnaissants de la présence de Dieu. Il se manifeste parmi nous et nous voulons l'adorer tel que lui-même le désire. Donc l'adoration centrée sur Dieu, une adoration révérencieuse, et la vraie adoration doit aussi être joyeuse, les amis. Joyeuse. Est-ce que vous avez déjà vu une fiancée amoureuse ? On peut-être imaginer, peut-être. Une fiancée amoureuse dans une relation en harmonie, être malheureuse quand elle est en présence de son bien-aimé. Ah ben non. Si elle est amoureuse et puis que la relation est harmonieuse, mais elle est heureuse, elle est joyeuse. On peut faire l'inverse, c'est le bien-aimé qui est avec sa bien-aimée également. Lorsque la fiancée téléphone à son fiancé, elle anticipe avec joie le jour où ils seront unis pour toujours. En fait, ça devrait nous amener à l'église avec la même joie que la fiancée, qui va parler avec son prince charmant, son chevalier, son bien-aimé promis. C'est lui que nous rencontrons ici dans l'église. Et c'est avec lui un jour que nous serons unis. On en a déjà parlé un petit peu ensemble dans la première prédication. Être l'épouse du Christ. Et là, je trouve beau dans cette histoire de la Samaritaine, dans Jean 4, on voit la Samaritaine qui part joyeuse annoncer la bonne nouvelle aux habitants de sa ville. Alors c'est vrai qu'on peut être malheureux quand on confesse nos péchés, c'est vrai, je suis d'accord. Même quand on vient à l'église, on confesse nos péchés, on est malheureux. Mais on ne va pas rester sur ce sentiment. Sinon, on n'a pas vraiment la foi. Les amis, la foi, c'est saisir l'œuvre de Christ qui a tout payé, qui nous pardonne, qui nous libère, qui nous purifie. Et c'est pour ça qu'on veut apporter aussi notre adoration d'une manière joyeuse. On a lu ce texte dans 1 Corinthiens 6:20 qui nous dit « Vous avez été rachetés à grand prix. » À grand prix, un prix impayable. L'œuvre de Christ, son sang. Eh bien, glorifiez donc Dieu dans votre corps, dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. C'est une joie, en fait, d'adorer celui qui nous a rachetés, purifiés, pardonnés, rendus héritiers, enfin, etc. Une joie. La vraie adoration, et là on revient dans Jean 4, Jésus le souligne ici dans Jean 4, la vraie adoration doit être en esprit. La vraie adoration doit être en esprit. Et Jésus dit à la Samaritaine que Jésus cherche des vrais adorateurs qui adorent le Père en esprit et en vérité. Donc ça c'est au verset 23. Verset 23, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. L'homme créé à l'image de Dieu est un adorateur. Il était créé à l'image de Dieu et parce qu'il a cette relation à Dieu, il a été créé adorateur. L'homme subissant les conséquences de la chute naît toujours adorateur. Même s'il y a eu la chute, on continue de naître adorateur, mais le problème, c'est qu'on est adorateur d'idole. Et Dieu doit nous transformer, se révéler à nous pour qu'on puisse être libéré de cette adoration des idoles. C'est pourquoi il est dit que Dieu, que le Père cherche les adorateurs, au verset 23. C'est lui qui va les chercher. C'est lui qui va transformer pour que nous puissions devenir des adorateurs. Et comment est-ce qu'il cherche ces adorateurs? Bien, il y a un exemple ici, en envoyant la Samaritaine à Sichar. Elle est allée et ensuite elle n'est pas revenue toute seule. Elle est revenue avec d'autres adorateurs qui ont aussi été touchés par la grâce de Dieu. La présence physique à l'église n'est pas suffisante. L'utilisation de cordes vocales pour chanter ou prier est déficiente si le cœur n'y est pas. La prière des autres aussi peut devenir nôtre si on est dans cette adoration par l'esprit. Ce n'est pas une adoration physique, c'est une adoration par l'esprit, c'est-à-dire par le cœur. Nous sommes spirituellement en réelle relation avec Dieu. Et nous voulons adorer en esprit, et pour adorer en esprit, nous devons être proche de Dieu, proche du cœur de Dieu, proche de sa parole et non proche du monde qui en fait nous éloigne totalement de cette adoration en esprit. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes en communion avec des Chinois si on ne parle pas chinois. Franchement, je vois des Chinois, je suis en communion avec eux mais je ne peux même pas leur parler. On ne peut pas vraiment être en communion avec quelqu'un si on ne peut pas avoir cette relation de dialogue. Et de même, il n'est pas possible d'adorer vraiment sans l'Esprit. On a besoin de l'Esprit. Pour que lorsque l'on chante ensemble, lorsque l'on loue Dieu ensemble, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce n'est pas juste des paroles. Ce n'est pas juste un son qui sort de notre bouche. C'est notre cœur qui adore réellement l'Éternel. C'est ça, adorer en Esprit. Et Jésus dit en Esprit et en vérité. Donc, la vraie adoration doit être aussi en vérité. Et il est dit... Le principe de ta parole est la vérité dans le psaume 119. C'est de la Bible que nous tirons la manière d'adorer Dieu à l'époque de la révélation dans laquelle nous sommes. C'est Dieu qui détermine comment l'adorer. Certaines églises, peut-être vous avez déjà entendu parler de ça, disent ce qui n'est pas expressément interdit est permis. Si ce n'est pas interdit, c'est bon, on peut le faire dans l'adoration de Dieu. On a un petit peu une autre approche ici, c'est que nous disons que ce qui n'est pas commandé est à laisser de côté. Pourquoi ? Parce que on évite ainsi d'ajouter des choses de notre propre chair, de nos propres désirs, qui ne seraient pas selon Dieu pour l'adorer. Parce que lorsque nous quittons la lumière de l'Écriture, nous sommes livrés à la nuit de nos propres désirs qui créent des idoles. On peut même prendre des idoles pour adorer Dieu. Quelque chose qu'on aime tellement, alors on le prend avec à l'Église pour adorer Dieu avec ce qu'on aime tellement. On va adorer Dieu selon ce que lui désire. La Bible doit être notre script pour notre adoration, si vous voulez, si on parlait d'acteur. On peut dire qu'il faut prier la Bible, prêcher la Bible, chanter la Bible. Et c'est ainsi que nous adorerons en vérité. Ça ne veut pas dire qu'on prend la Bible et qu'on lit exactement les mots qui sont écrits, mais en fait, c'est ceci qui va nous inspirer à chanter des cantiques à l'Éternel. Voilà pourquoi nous aimons les cantiques qui sont inspirés de la Bible, où on tire ces textes de la parole de Dieu. Jésus a donné l'eau vive à cette Samaritaine en allant jusqu'à la croix. C'est comme ça qu'il a donné l'eau vive. Quand il dit « Je te donne l'eau vive », il ne lui a pas donné un verre d'eau. Il lui a donné l'eau vive en allant mourir à la croix pour elle. C'est ainsi qu'il donne l'eau vive. En obéissant parfaitement pour elle, il lui donne le pardon et la sainteté. Cette eau la satisfera éternellement. Adorer en vérité, c'est se souvenir de toute l'œuvre de Dieu pour nous et entrer dans les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Voilà donc quelques éléments de l'adoration en vérité. Et nous terminons par une dernière partie où on parle des fruits d'une adoration authentique. Quels sont les fruits ? Quels sont les résultats d'adorer Dieu d'une façon vraie et authentique ? Eh bien, un premier résultat, c'est que lorsqu'on adore en vérité, nous prenons plaisir en Dieu. Lorsqu'on prend réellement du temps pour adorer Dieu, on a du plaisir en lui, on est bien avec lui. Combien souvent j'ai déjà entendu, même dans des camps, on n'a pas envie de partir. Parce qu'on est bien, avec Dieu. L'adoration authentique produit la joie, la paix, le bonheur. Et là, le psaume 16, verset 11 le souligne, où il est dit « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a abondance de joie devant ta face, des délices éternels à ta droite. » Deuxièmement, donc nous prenons plaisir en Dieu, c'est une des conséquences. Une deuxième conséquence qui peut vous paraître étonnante, mais c'est que Dieu prend plaisir en nous. Quand on adore d'une façon authentique, Dieu prend plaisir en nous. Dans Sophonie 3:17, il est dit « L'Éternel ton Dieu est au milieu de toi un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour pour toi. Il aura pour toi une triomphante allégresse. » Non, une triomphante allégresse. C'est ça qu'il a quand on l'adore en esprit, en vérité, d'une façon vraie, Dieu a de la joie. Dieu prend plaisir à notre adoration. Donc quand on sait que Dieu prend plaisir, ça nous motive. Vous vous rendez compte, le Dieu créateur du ciel et de la terre, qui a du plaisir pour quelque chose que je fais, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Puis en plus, c'est lui qui me donne la force, donc je suis tellement reconnaissant. Voilà un des résultats, un des fruits de l'adoration authentique, c'est que Dieu prend plaisir en nous. Ensuite, encore un autre fruit, c'est que nous nous approchons de Dieu d'une manière nouvelle et extraordinaire. Nous nous approchons de Dieu d'une manière nouvelle et extraordinaire. En fait, dans l'ancienne alliance, le lieu saint n'était réservé qu'à quelques personnes, une fois par année. Dans l'Ancien Testament, une fois par année, le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint. Ça ne fait pas beaucoup une fois par année. C'est juste le jour de ton anniversaire, c'est tout. Une fois par année. Alors que dans la Nouvelle Alliance, le croyant a le privilège extraordinaire de pouvoir entrer directement dans le lieu très saint qui est dans le ciel pour l'adorer à tout moment. À tout moment. Là, Hébreux 10, ce texte extraordinaire qui nous dit « Ainsi donc, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus. » Hébreux 10, versets 19 à 23. Accès que Jésus a inauguré pour nous comme un chemin nouveau et vivant au travers du voile, c'est-à-dire sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc d'un cœur sincère, avec une foi pleine et entière, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le cœur lavé d'une eau pure. Confessons notre espérance sans fléchir car celui qui a fait la promesse est fidèle, il est fidèle. Donc l'adoration authentique nous met dans une présence réelle avec Dieu. C'est pas du théâtre. C'est pas juste un faux semblant qui est triste et vide. Non, c'est réel. Lorsque nous adorons Dieu d'une manière authentique, nous entrons réellement dans une présence avec Dieu, avec Christ. Un quatrième fruit d'une adoration authentique, c'est que Dieu s'approche de nous. Dieu s'approche de nous. Jacques nous dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Donc c'est extraordinaire ça. Et on se dit, est-ce que j'ose m'approcher de Dieu? Franchement, tout seul, sans Christ, j'oserais pas. Mais comme Christ est venu, il a tout payé. Donc avec lui, je m'approche de Dieu et Dieu s'approche de moi. Là, de nouveau, on se rend compte, mais c'est qui s'approche de nous? C'est celui qui nous donne la vie, qui peut l'enlever à tout moment. C'est celui qui tient tout dans sa main. C'est celui qui conduit l'histoire depuis le début, depuis la Genèse, jusqu'à la fin du monde. C'est auprès de lui qu'on s'approche. Et c'est lui qui s'approche de nous. Cinquième fruit d'une adoration authentique, c'est que Dieu nous fortifie. L'adoration authentique nous fait entrer en présence de celui que nous voulons refléter. Et quand on est dans sa présence, eh bien, il va nous influencer. Vous savez, on est toujours influencé par ceux ou par les lieux dans lesquels nous sommes. Donc quand on est en présence de Dieu, on est influencé par lui, par ce Dieu puissant, ce Dieu plein de grâce, ce Dieu compatissant, et ainsi, il nous fortifie. De Corinthiens 3, 17, hein, « Or le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit, le Seigneur est là, et là est la liberté. Nous tous qui avons le visage dévoilé, reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » Être en présence de Dieu nous permet de refléter sa gloire et d'être transformé de gloire en gloire. C'est quand même magnifique, une vraie adoration. Ce qu'on est en train de vivre, quand c'est du cœur, quand c'est une adoration en esprit et en vérité. Et encore deux autres fruits d'une adoration authentique. L'une, c'est que les ennemis du Seigneur s'enfuient. Et oui, parce que lorsque nous sommes en présence du Seigneur, les ennemis ne peuvent pas venir. Et c'est intéressant de voir dans l'Ancien Testament, même au temps de Josaphat, il y a donc des rois qui sont venus pour combattre Josaphat. Eh bien lui, il a mis des personnes qui louaient Dieu devant l'armée. Et quand ils ont commencé à louer Dieu, vous pouvez lire ça dans 2 Chroniques 20, les versets 21 à 22. Au moment, je vous lis verset 22, au moment où l'on commençait les acclamations et les louanges, l'Éternel plaça des embuscades contre les Ammonites et les Moabites et ceux du mont de Séir qui étaient venus contre Juda et ils furent battus. Vous voyez ? De faire confiance à Dieu, d'aller dans la présence de Dieu et lui combattra pour nous. C'est vrai que nos ennemis ne sont actuellement que rarement physiques autour de nous. Mais on a tant d'ennemis spirituels autour de nous. Et l'adoration authentique nous place en présence de Dieu qui est victorieux face à nos ennemis. Et le dernier fruit d'une adoration authentique que j'aimerais souligner avec vous, c'est que les non-croyants savent qu'ils sont dans la présence de Dieu. Les non-croyants savent qu'ils sont dans la présence de Dieu lorsque nous l'adorons d'une façon authentique. Alors c'est vrai que la Bible ne présente pas l'évangélisation comme le but principal d'un culte. L'adoration authentique, par contre, manifestera la présence de Dieu aux non-croyants et aura un effet. C'est-à-dire, mais Dieu est là. Dieu est présent ici. Il est présent. Et quand quelqu'un commence à saisir que Dieu est présent, qu'est-ce qui se passe? Il commence à être saisi que dire, mais moi je ne suis pas digne d'être devant lui. J'ai besoin d'être secouru. J'ai besoin d'un sauveur. Et adorer Dieu d'une manière authentique, c'est un moyen de manifester notre réconciliation avec Dieu. C'est une manière de manifester l'évangile de Christ. Alors comme conclusion, courtement, on va se rappeler que nous sommes nés adorateurs. Tous on est nés adorateurs. Et la nouvelle naissance, donc on est né, c'est dans la chair, hein, et la nouvelle naissance nous fait entrer dans une nouvelle adoration en esprit et en vérité. Et nous voulons donc nous stimuler à vivre la vraie adoration où nous verrons le fruit d'une authentique adoration. L'Église de Jésus adore Jésus-Christ parce qu'il est là, présent ici, et c'est ce que nous voulons vivre pour sa gloire et par sa force. Nous allons prier. Ô Dieu, notre Père, quelle reconnaissance de pouvoir nous approcher de toi, mais c'est vrai que lorsque nous nous rendons compte de ta présence parmi nous, cela peut nous faire trembler. Toi, le Dieu du ciel et de la terre, ici présent avec nous. Seigneur, c'est ton Église, c'est toi qui l'as construite. Et cette Église, Seigneur, nous voulons la vivre en t'adorant. Parce que tu es digne de notre adoration, de notre louange. Ô Seigneur, nous te remercions parce que, en entrant dans cette adoration, tu nous permets même de vivre des choses tellement belles, d'être plus proche de toi, d'être accueilli par toi, de même savoir que tu as du plaisir, de la joie lorsque nous t'adorons, de savoir que lorsque nous sommes près de toi, nos ennemis s'enfuient. Et lorsque nous t'adorons d'une manière vraie, authentique, ceux qui ne te connaissent pas reconnaissent que tu es présent. Ô Seigneur, nous te prions de le vivre toujours plus, d'être conscient que lorsque nous nous retrouvons en Église, cette Église que toi tu construis, cette Église qui est ton idée, cette Église qui est le corps de Christ, eh bien tu es présent de façon toute particulière et nous pouvons t'adorer. Te prions que nos cœurs soient, Seigneur, touchés par ta grâce, afin que ce ne soit pas seulement nos lèvres ou nos attitudes extérieures, mais que tout notre être, notre personne t'adore. Seigneur, nous t'adorons et nous te louons dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.